Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 1. Le bon ange. C'est un terrible effort de mémoire que celui qu'il nous faut en ce moment solliciter de nos lecteurs. Nous n'osons les prier de vouloir bien relire la première partie de l'immense roman dont nous commençons aujourd'hui la dernière série, et pour venir en aide à leurs souvenirs confus, si toutefois ils ont conservé de la reine Balkis le moindre souvenir, nous devons mettre sous leurs yeux une rapide analyse des derniers événements auxquels se rattachent, par des nœuds indissolubles, les faits que nous allons raconter et qui contiennent le dénouement de notre œuvre. Jeanne de Chambard, la touchante reine de Saba, devenue, ou plutôt se croyant devenue Madame de la Tremblée, dupe qu'elle était de l'infâme comédie d'un mariage fictif, profanation digne de rouée sans âme, tels que le chevalier Raoul et le marquis de Tienge, jouissait en paix des joies d'un amour dont elle ne pouvait soupçonner l'illégitimité. Mais voici que tout à coup, dans le ciel si pur de son bonheur, jusqu'alors sans nuage, retentit un coup de tonnerre. Un papier tombé de la poche de son mari, et recueilli par elle, lui apprit que Raoul faisait prendre des renseignements, par un espion à ses gages, sur une certaine Antonia Verdi, intrigante douée d'une rare beauté, récemment arrivée à Paris et demeurant rue de la Jussienne, hôtel de Lyon. Une jalousie furieuse s'empara de Jeanne à l'instant même et la rendit folle. Après une scène violente avec son mari, elle sortit de chez elle en l'absence de ce dernier et elle se fit conduire dans une chaise à porteurs à l'hôtel de la rue de la Jussienne. Elle voulait voir Antonia Verdi et lui arracher la vérité. Elle ne put arriver jusqu'à la prétendue italienne, et elle regagnait sa demeure, désespérée, découragée mais calmée, quand elle tomba tout à coup dans un trébuchet tendu par un certain vicomte d'Aubigny. Ce vicomte d'Aubigny, il est utile qu'on ne l'oublie pas, était un des familiers du régent et l'introducteur d'Antonia Verdi au palais royal. Jeanne allait devenir la proie de son ravisseur audacieux, quand un secours inespéré lui tomba du ciel sous la forme de Don Raymond de Vasconcelos, commandeur de Malte et notre ancienne connaissance. Un duel eut lieu entre les deux hommes et Don Raymond de Vasconcelos, représentant par hasard le bon droit, si rarement protégé par la justice divine, tua raide le vicomte d'Aubigny, réintégra Jeanne évanouie dans la chaise à porteurs et la ramena à l'hôtellerie du roi Salomon. Monsieur de la Tremblée, cependant, avait rassuré sa femme en lui racontant que cette Antonia Verdi, qui lui causait tant d'ombrage, devait être affiliée à la police du régent. « Comme cette police, avait-il ajouté, est à ma recherche à la suite de la prétendue conspiration dont je t'ai déjà parlé, j'ai un puissant intérêt à me renseigner au sujet d'Antonia, de la façon la plus complète. » Tout cela n'était rien moins que clair, mais Jeanne ne demandait qu'à se laisser convaincre, et nous avons vu la lune de miel briller de nouveau dans le ciel des jeunes époux. De tous les points de l'horizon accouraient des nuages épais qui devaient le voiler bientôt. Raoul, tout à son amour, dont la petite crise que nous venons de rappeler avait encore redoublé l'ardeur, oubliait le marquis de Tienge, le régent, les faux-monnayeurs du château des Spectres, Antonia Verdi et ses puissantes évocations. Il oubliait tout enfin pour s'isoler avec sa Jeanne bien-aimée qui pour lui remplaçait le reste du monde. Combien de temps aurait duré cette voluptueuse torpeur, cette amoureuse claustration, si nul incident n'était venu les interrompre d'une façon brusque et imprévue? Voilà ce que nous ne savons pas et ce qu'il nous est impossible de deviner. Nous croyons avoir dit à plusieurs reprises que Monsieur de la Tremblée avait dans Paris différents logements, d'une importance plus ou moins grande, louée par mesure de précaution, les uns sous son nom, les autres sous des noms de fantaisie. De tous ces logis, le plus inconnu peut-être était celui qu'il habitait avec Jeanne et qui communiquait par de mystérieux passages avec l'hôtellerie du roi Salomon. Deux personnes seulement connaissaient ce logis. C'était le marquis de Tienge et Don Raymond de Vasconcelos. Une après-midi, Raoul et Jeanne se trouvaient assis à côté l'un de l'autre sur les divans du salon oriental. Ou plutôt, la jeune femme était à demi couchée dans les bras de son mari, la tête renversée sur sa poitrine. Les deux époux ne se parlaient qu'avec leurs regards, tout à la fois ardents et humides, et les heures passaient rapides comme l'éclair. On gratta doucement à la porte. La jeune femme s'échappa des bras de son mari et répara vivement le désordre de sa toilette et de sa chevelure. « Qui est là ?» demanda Raoul. « Moi, monsieur le chevalier, » répondit une voix bien connue. « Ah, c'est toi, Jacques ?»«
Oui, monsieur le chevalier. »
« Qu'est-ce que tu veux ?»«
J'apporte une lettre extrêmement pressée pour monsieur le chevalier. »«
Eh bien, entre !» Jacques entra en effet et présenta à Raoul sur un plat d'argent une enveloppe carrée scellée d'un large cachet de cire rouge. « D'où vient cela ?» dit monsieur de la Tremblay avant d'avoir regardé les armes empreintes sur le cachet. « Qui l'a apporté ?»«
Un valet de pied de monsieur le marquis de Tiange. »
« Attend-il une réponse, ce valet ?»
« Oui, monsieur le chevalier. »
Raoul déchira l'enveloppe et lut les lignes suivantes. « Depuis 2 jours, mon cher chevalier, j'ai passé 3 fois chez vous. Mais ou vous n'y êtes jamais, ou vous n'y voulez pas être, ce qui revient exactement au même pour vos visiteurs. Il faut cependant que je vous parle, et que je vous parle aujourd'hui même. Dans votre intérêt comme dans le mien, cela est indispensable, complètement indispensable. » Prenez, je vous en prie, bonne note de ce mot que je souligne à dessein. Serez-vous chez vous à 3 heures de relevé? Aimez-vous mieux vous trouver chez moi à 6 heures? Répondez à ceci, et selon votre réponse, je viendrai chez vous, ou je vous attendrai chez moi. Mettez-moi, je vous prie, aux pieds charmants de Madame de la Tremblay, que je supplie de vouloir bien me compter parmi ses plus passionnés serviteurs, et croyez que je suis, comme toujours, votre ami dévoué. Marquis de Tiange. Raoul prit une plume et répondit « Chez moi, cher marquis, si vous le voulez bien, et à l'heure qui vous conviendra le mieux, car de toute la journée, je ne sortirai pas. Votre ami et votre obligé, Raoul de la Tremblay. » Jacques sortit en emportant la feuille de papier sur laquelle Raoul venait de tracer ses 2 lignes. Curieusement et gracieusement appuyé au bras de son mari, Jeanne avait lu en même temps que lui la lettre de monsieur de Tiange. Que peut-il te vouloir ? Lui demanda-t-elle aussitôt que Jacques fut sorti de la chambre.
Je l'ignore complètement.
Et tu ne devines pas ?
En aucune façon.
Ton intérêt, autant que le sien, exige une entrevue immédiate, te dit-il. Vous avez donc des intérêts communs, le marquis de Tiange et toi ?
Pas que je sache.
« Cependant, la lettre est là et les expressions sont claires. »«
Le marquis veut parler sans doute de cette conspiration qui me force à me cacher, et à propos de laquelle il est compromis comme moi. »«
mon Dieu, pourvu qu'il ne vienne pas t'apporter de mauvaises nouvelles. »«
Allons bon, voilà que tu t'inquiètes à présent. »«
N'y a-t-il donc pas de quoi ?»«
Non, certes. »«
Que veux-tu ? Tout mystère m'effraie. » Tout ce que je ne comprends pas m'épouvante. Il me semble toujours que tu vas courir un danger. Il ne faut pas m'en vouloir pour cela, mon ami. Ce n'est pas ma faute si je t'aime.
Mais, pauvre cher enfant, ce danger que tu redoutes n'existe pas.
Cependant, mon ami, cette conspiration, je te répète que c'est une absurde et ridicule accusation qui tombera d'elle-même.
Absurde et ridicule, je le crois, j'en suis sûre, puisque tu me l'affirmes.
Et pourtant, tu sais ce que dit la sagesse des nations ?
Que dit-elle ? Demanda Raoul en riant.
Elle dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
D'où tu conclus sans doute que puisqu'on parle de conspiration, c'est qu'on a un peu conspiré.
C'est la sagesse des nations qui conclut cela.
Eh bien, la sagesse dit des folies. De Tiange et moi, nous nous sommes compromis par des paroles légères, et dont on a dénaturé le sens. Mais voilà tout, absolument tout.
C'est bien assez, c'est beaucoup trop. Des paroles. Mais on prétend qu'il suffit à un juge de 2 paroles d'un homme pour faire pendre cet homme.
Raoul se mit à rire.
Pourquoi ris-tu ? Demanda Jeanne.
Parce que je n'ai rien à craindre. On ne pend que les manants. On décapite les gentilshommes. D'ailleurs, je t'en supplie, chasse toutes les inquiétudes qui troublent cette chère et jolie tête. Nous avons, De Tiange et moi, de très puissants amis auprès de la personne de Monseigneur le Régent. Ces amis ne nous oublient pas. En ce moment, ils parlent pour nous. Ils sollicitent chaudement. Et c'est sans doute du résultat de leur démarche que le marquis veut me parler. Ou peut-être encore a-t-il besoin de me consulter sur l'opportunité de quelques démarches nouvelles. Et d'ailleurs, aimé de toi, est-ce que je peux courir un danger? Est-ce que ton amour n'est pas une égide qui doit me préserver de tous les périls?
Le crois-tu vraiment? Demanda Jeanne radieuse.
Oui, certes, je le crois. Et jamais conviction ne fut plus arrêtée et plus inébranlable que celle-là.
Eh bien, moi aussi, mon Raoul, moi aussi je le crois. Il me semble que même quand je suis absente, mon amour est auprès de toi pour te protéger et te défendre. Et à certaines heures, j'entends une voix mystérieuse me dire tout bas que je suis ton bon ange.
Tandis que Jeanne prononçait ces paroles, dans lesquelles se lisait clairement toute l'exaltation de son âme, un nuage sombre passa sur le front de Raoul, dont les sourcils se contractèrent. Jeanne ne vit ni cette contraction, ni ce nuage, et d'ailleurs, elle ne les aurait pas compris. Raoul, terrassé par les divines émanations de cet immense amour, se disait pour la première fois peut-être qu'il avait commis une action infâme en enchaînant à son existence criminelle et sans cesse menacer l'existence de cette adorable créature. Il se disait que cette voix mystérieuse dont parlait Jeanne la trompait à coup sûr, car Dieu ne peut pas permettre à un bon ange de veiller sur un mauvais génie. Mais ces graves impressions ne furent que fugitives. Le sourire revint sur les lèvres de Raoul. Son regard brilla de nouveau, son front se rasséréna, et rendant à Jeanne étreinte pour étreinte, il murmura
« Tu es ma vie, tu es ma force, tu es mon bonheur, je t'aime. »
3 heures sonnèrent. En ce moment, Jacques vint annoncer à son maître que le carrosse du marquis de Tiange entrait dans la cour.
« Je vais au-devant de lui, » dit Raoul.
« Resterai-je avec toi pour le recevoir, mon ami ?» demanda Jeanne à son mari.
« Non, mon enfant, » répondit-il.
« Et pourquoi ?»«
Tu sais bien, ma chère bien-aimée, que je n'ai pas de secret pour toi, et que tout ce qui sera dit entre deux Tianges et moi, je te le répéterai. Mais je crains que ta présence ne paraisse indiscrète au marquis, et même embarrassante si quelques-unes des choses qu'il veut me communiquer lui sont entièrement personnelles.
Soit, mon ami, je me retire, répondit la jeune femme.
Ô mon seigneur et maître, que votre volonté soit faite.
Et elle disparut. En ce moment, le marquis arrivait en haut de l'escalier, où Raoul alla le recevoir pour l'introduire aussitôt dans le salon oriental.
Chapitre 2. Le marquis et le chevalier.
« Ah ça, mon cher marquis !» dit Raoul aussitôt qu'il se fut isolé avec son hôte, en s'assurant que toutes les portes étaient bien fermées. « Savez-vous que les quelques lignes mystérieuses de votre billet m'ont donné presque de l'inquiétude ?»«
Pardieu, mon ami, » répliqua M. de Tiange, « vous aviez bien raison d'être inquiet, et je viens ici pour vous rassurer. »«
Comment ? Il y a donc de mauvaises nouvelles ?»«
Oui. »«
Nos affaires vont mal ?»«
Très mal, et vous le sauriez si, au lieu de vous absorber corps et âme dans les délices de votre lune de miel, vous daignez vous occuper un peu du monde extérieur.
Enfin, il n'est pas trop tard, j'imagine, pour me mettre au courant.
Non, sans doute.
Et on peut encore remédier au mal?
Je l'espère.
Enfin, qu'y a-t-il?
Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit la veille ou l'avant-veille du jour de votre mariage?
À quel propos?
À propos des trames habilement ourdies dans lesquelles on enveloppait le régent.
Oui, vous m'avez parlé d'Antonia Verdi.
Précisément. Et c'est d'elle encore que je veux vous reparler aujourd'hui.
Ah! Vous avez négligé sans doute de vous renseigner au sujet de cette intrigante.
Non, mais je n'ai rien appris qui puisse nous être d'une sérieuse utilité en nous fournissant une arme contre cette femme.
Tant pis, car l'influence de l'Italienne sur Philippe d'Orléans augmente d'une manière véritablement effrayante. Elle est admise presque chaque jour au Palais-Royal, et 3 fois en moins d'une semaine, elle a eu l'insigne honneur d'un tête-à-tête avec le régent.
Les maîtresses en titre doivent être dans la consternation.
Parabère et Sabran se désolent, et les autres prétendent que l'Italienne a fait prendre des filtres à son Altesse, qui vient de lui donner un très joli hôtel dans la rue de la Cerisaie.
En effet, comme vous le dites, c'est grave. Si cette fille s'empare du régent non seulement par la crédulité, mais encore par les sens, son influence peut devenir sans borne.
Et vous le comprenez aussi bien que moi, l'influence sans borne d'Antonia Verdi, c'est notre perte.
Nous lutterons.
Ce n'est pas tout. Vous aviez blessé le comte d'Aubigny, qui par bonheur ne vous connaissait pas.
Oui.
Eh bien, il a été tué en duel il y a quelques jours dans une seconde rencontre.
Je le savais.
Est-ce avec vous qu'il se battait?
Non.
Eh bien, le régent, qui après le premier duel avait pris fait et cause pour son officier et trouvé fort mauvais que qui que ce fût ait eu l'impudente audace de s'attaquer à quelqu'un de sa maison, est persuadé que la main qui a frappé mortellement était la même qui avait frappé déjà. Et il a ordonné les recherches les plus actives. Tous les limiers de la police sont sur pied. Je crois que le vicomte d'Aubigny était en secret l'amant de l'Italienne. Mais cette dernière attise de tout son pouvoir le feu de la vengeance dans l'âme de Philippe d'Orléans.
Eh bien, qu'il cherche. Je suis certain d'avance qu'ils ne découvriront point l'adversaire de d'Aubigny pour le second duel.
Peut-être, mais vous avez mis l'épée à la main une première fois, et cela peut suffire pour vous perdre.
Il me semble, mon cher marquis, que vous voyez les choses bien en noir.
Je les vois comme elles sont. Mais attendez, je n'ai pas tout dit.
Il y a donc encore autre chose?
Oui. Il paraît que dans ces derniers temps, nous avons été un peu vite dans notre émission de fausse monnaie. Les bourgeois se lamentent. Les marchands de la bonne ville de Paris crient comme des aigles. Le régent est assailli de plaintes et de supplications incessantes. Un jour ou l'autre, il sera débordé. Et j'ai grand peur qu'alors, la police ne finisse par jeter sur nos affaires et sur nos opérations un regard indiscret.
Eh bien, croyez-vous toujours que je vois les choses trop en noir?
Je conviens que la situation se complique.
Mais vous me montrez le mal et vous ne m'indiquez pas le remède.
Il n'y en a qu'un, selon moi.
Lequel?
Faire diversion.
Oui, mais le moyen?
J'ai compté sur vous.
Sur moi? Et mon Dieu, que puis-je?
Vous pouvez beaucoup. Je sors du palais royal. J'ai vu le régent. Et sur ma demande, nous sommes compris, vous et moi, parmi les convives masculins du petit souper de cette nuit.
À ce souper, que dois-je faire?
Vous êtes un homme d'esprit, mon cher Raoul, un homme d'imagination, un homme fertile en expédients et en ressources. J'ai la conviction que vous parviendrez cette nuit à vous emparer de nouveau de l'imagination de son Altesse royale et à reconquérir votre influence, très notablement compromise en ce moment.
Quels moyens mettrez-vous en œuvre pour arriver à ce résultat?
Je ne le sais pas. Et selon toute apparence, vous ne le savez pas plus que moi. Mais d'ici à ce soir, vous aurez trouvé. Cela n'est pas douteux.
Vous me faites beaucoup trop d'honneur, mon cher marquis, répondit Raoul en riant.
Vous paraissez sûr de moi, et je vous assure que je ne suis rien moins que tranquille.
Allons donc. Modestie qui vous rapetisse à vos propres yeux et vous grandit aux miens.
D'ici 2 heures, vous aurez combiné tout votre plan, et vous me mettrez au fait quand je reviendrai vous prendre, afin qu'il me soit possible de vous donner au besoin la réplique.
De quoi s'agit-il, après tout? De combattre Antonia Verdi avec ses propres armes?
L'Italienne subjugue le régent par l'extraordinaire. Elle montre le diable.
C'est charmant.
Dépassez les prestiges d'Antonia Verdi. Faites voir à Philippe quelque chose de plus étrange que le diable, et vous gagnerez la partie.
Ça n'est pas plus difficile que ça, insista le marquis.
Eh pardieu, s'écria Raoul, vous en parlez fort à votre aise.
Le régent commence à se blaser. Je ne vois pas trop comment je pourrais dépasser les prestiges d'Antonia.
À moins de faire apparaître le cardinal Dubois, qui est un diable de première classe et supérieur en dignité, je le parierais, à celui de l'Italienne.
Vous plaisantez, c'est bon signe. Je suis plein d'espoir et de confiance, reprit le marquis.
Plaise au ciel que cette confiance ne soit pas déçue.
Allons donc, nous arriverons au palais royal à minuit, Je viendrai vous prendre à 11 heures, afin que nous ayons le temps de causer ensemble et de nous entendre.
Très bien. Maintenant, que faites-vous?
Je m'en vais. J'ai quelques affaires à terminer.
Un service, je vous prie.
Lequel?
Je vais faire appeler Madame de la Tremblay.
Je m'estimerais fort heureux de déposer mes hommages à ses pieds, interrompit le marquis.
Faites-moi le plaisir d'avoir à votre tour de l'imagination et d'inventer un prétexte adroit pour motiver à ses yeux une absence de toute une nuit.
Un prétexte? En êtes-vous donc là, mon pauvre chevalier?
Quoi? Pour passer la nuit hors de chez vous, il vous faut des prétextes?
Que voulez-vous? Jeanne est si jolie.
C'est une excuse, mais vous vous êtes mis sur un bien mauvais pied.
Enfin, ça ne me regarde pas, et je vais faire ce que vous me demandez.
Jeanne, prévenue que le marquis de Tianges voulait lui présenter ses respects, ne se fit pas attendre. Le marquis, avec la galanterie enjouée d'un grand seigneur et d'un courtisan, lui demanda pardon de lui enlever son mari pendant une nuit entière. Mais il donnait dans son hôtel un souper d'hommes auquel il tenait infiniment à voir assister Raoul.
Cependant, ajouta-t-il, si l'absence de ce mari bien-aimé devait mettre un nuage sur ce front si pur, une larme dans ses yeux si doux, je renoncerai, mais non sans un très vif chagrin, à voir le chevalier accepter mon invitation.
« Ah, monsieur le marquis, répondit la jeune femme, ce serait un amour bien exigeant et bien tyrannique que celui qui sacrifierait à sa fantaisie, non seulement son mari, mais les meilleurs amis de son mari. J'accepte au nom de Raoul votre invitation. »
Monsieur de Tianges remercia Jeanne avec effusion, ajouta quelques paroles gracieuses et se retira.
« À quelle heure ce souper, mon ami ?» demanda Jeanne quand elle se trouva seule avec Raoul.
« À minuit, mon enfant. »
« Et il se prolongera ?»«
Jusqu'au jour, selon toute apparence. »
« Et ce que monsieur de Tianges a dit est bien vrai, n'est-ce pas ?»«
Quoi donc ?»«
C'est un souper d'hommes. »
« Sans doute. »
« Et à ce souper, il n'y aura pas de femme ?»«
Jalouse enfant, » dit Raoul avec un sourire un peu contraint.
« Calme bien vite cette chère petite tête, car je t'affirme qu'à ce souper, il n'y aura pas de femme. »
Jeanne, rassurée par cette affirmation, tendit son front à Raoul et retourna dans sa chambre où son mari ne la suivit pas. Pendant près de 2 heures, monsieur de la Tremblay s'absorba dans une rêverie profonde tout à fait semblable à la préoccupation du romancier qui cherche une idée de roman, du dramaturge qui bâtit un plan de drame. Au bout de ce temps, Raoul releva la tête. Un éclair jaillit de son œil triomphant et il s'écria
« La reine de Saba, c'est cela, oui, c'est bien cela, j'ai trouvé !»
À 11 heures précises, Raoul montait dans le carrosse de monsieur de Tianges.
« Eh bien, lui demanda ce dernier, où en sommes-nous ? »
« Je crois, répondit Raoul, je crois que vous avez bien fait de compter sur moi. »
« Vous avez trouvé ? » ?»«
Oui, j'en étais sûr.
Et peut-on savoir ? » ?»«
Parfaitement, d'autant plus que j'aurai besoin de vous. »
Et Raoul raconta au marquis dans tous ses détails le plan qu'il avait conçu, plan auquel M. de Tianges donna la plus complète approbation. À minuit moins quelques minutes, le carrosse entrait dans les cours du palais royal.
Chapitre 3. Philippe d'Orléans. La parabère. Le service des petits soupers du palais royal était fait non point par la livrée ordinaire de la maison du régent, mais par un nombre restreint de valets choisis et sur la discrétion desquels on croyait pouvoir compter d'une façon absolue. Parfois même, lorsqu'il entrait dans les intentions de son Altesse royale de faire du souper une de ces orgies étranges que Pétrone devait avoir deviné quand il décrivait le festin de Trimalcion, les valets se voyaient remplacés par de jeunes et belles filles dont les costumes étaient tout à fait de circonstance. Mais, que nos chastes lecteurs se rassurent, rien ne devait moins ressembler à une orgie que le repas auquel nous allons les faire assister. Au moment où un valet de pied introduisit le marquis de Tianges et le chevalier de la Tremblay dans un salon ovale de moyenne grandeur,
ou plutôt dans un boudoir qui faisait partie des petits appartements, les convives du souper et le régent lui-même s'y trouvaient déjà réunis. Ces convives étaient, en homme, Philippe d'Orléans, régent de France, le duc de Richelieu, le marquis de Nocé, le marquis de La Fare, le comte de Fargy. En femme, Madame de Parabère, Madame de Sabran, Madame d'Averne, Madame de Gassé, la duchesse de Gèvres, la souris, Émilie. En ajoutant aux illustres personnages des deux sexes que nous venons de citer, messieurs de Tiange et de la Tremblay, on arrivait à un total de 14 convives. Philippe d'Orléans, le dos appuyé à une haute cheminée de marbre blanc, écartait les basques de son habit de velours grenat, splendidement brodé d'or, et présentait à la flamme ses mollets, dont il tirait assez volontiers vanité, car il avait la jambe très belle. Les deux nouveaux venus allèrent le saluer, et il les accueillit avec une bonne grâce parfaite. Le régent était un homme de taille moyenne, bien fait, élégant dans sa démarche, noble dans son attitude. Les yeux de ce prince avaient été beaux, mais l'un d'eux était à peu près perdu, et comme il voyait peu de celui-là, l'autre éprouvait une fatigue habituelle qui en diminuait l'expression. Le régent avait les cheveux noirs, le teint coloré, la bouche vermeille et bien garnie. L'ensemble de sa physionomie était spirituel, plein de finesse et très gracieux. Enfin, les traits du duc annonçaient un caractère affable, ouvert, franc, un peu faible, et il n'était point trompeur. Philippe d'Orléans se montrait aimable, bon, d'une humeur à peu près toujours égale. Sa gaieté était presque inaltérable, et l'on excitait difficilement sa colère et même son impatience. Exempt de hauteur et de morgue, il aimait à trouver autour de lui une franchise, qui malheureusement n'était jamais qu'apparente. Il aimait à entendre ceux qui se trouvaient en rapport avec lui s'exprimer librement et presque familièrement. Il saisissait l'occasion de dire des choses flatteuses à ceux qui l'approchaient. Admirateur des grandes actions, de la gloire, du métier des armes, il s'enthousiasmait pour les héros et les grands capitaines. Il adorait la mémoire d'Henri IV et de toutes les flatteries, celle qui le chatouillait le plus délicieusement était une comparaison adroite de son visage et de son caractère avec le caractère et le visage du Béarnais. Certes, Philippe d'Orléans était né pour être un de ces princes dont les générations à venir chériront le souvenir. L'infâme Dubois le détourna de cette large et belle voie que Dieu avait tracée devant lui pour le jeter à corps perdu dans les fanges d'une débauche effrénée. Dubois, précepteur du prince et chargé de diriger le premier essor de ce tempérament de feu, sentit que pour éterniser son pouvoir sur l'esprit et sur l'essence de son élève, il fallait développer en lui les instincts du libertinage et de l'inconstance. On sait de quelle façon triomphante le futur cardinal s'acquitta de cette tâche. Le duc d'Orléans, s'empressant de mettre à profit les leçons d'un tel maître, dépassa bientôt les voluptueuses légèretés de tous les jeunes seigneurs de son époque. Pour lui, l'inconstance n'eut jamais assez d'aile, l'amour assez de prêtresse. Ses liaisons ne furent que des fantaisies. Ce que le duc d'Orléans appelait une affaire de cœur, bien que cet organe du sentiment n'y jouât en réalité qu'un rôle infiniment accessoire, devait se conclure et se dénouer dans l'espace d'un souper. Et encore, consacrait-il au moins la moitié du temps que durait ce repas aux joyeux propos, aux saillies des hommes d'esprit qu'il admettait à sa table. Le duc de Richelieu est beaucoup trop connu pour qu'il puisse être utile et intéressant de tracer de lui un portrait physique et moral. D'ailleurs, Richelieu, pas plus que Nocé, Fargy et La Fare, ne sont destinés à jouer un rôle actif dans notre récit. Arrivons sans plus de retard aux convives d'un autre sexe. Là, les redites sont légitimes, car alors même que l'on a déjà vu 100 fois une séduisante figure de femme, on la revoit 101e fois avec un plaisir qui ne diminue pas. À tout seigneur, tout honneur. Commençons par Madame de Parabère, qui, pendant bien des années, exerça sur Philippe d'Orléans un pouvoir très partagé et cependant très despotique. La Parabère était une femme de taille moyenne, plutôt petite que grande,
brune et pâle, avec le teint légèrement bistré des créoles et des andalouses. Ses magnifiques cheveux, d'un noir bleuâtre et luisant, étaient d'une incroyable épaisseur et d'une longueur invraisemblable. Dans tous ses mouvements, même les plus brusques, la Parabère recelait une grâce lascive. Ses yeux, d'un bleu si sombre qu'il semblait presque noir, avaient un éclat étrange et jouissaient de ce pouvoir de fascination qu'on prête aux yeux de certains serpents. Plus encore que les rayons du soleil dérobés par Prométhée, leur feu pouvait donner la vie. Le regard qui s'échappait de ses yeux adorables, tantôt rempli d'une langueur molle et tantôt d'une ardeur singulière, ruisselait entre les doubles palissades de longs cils recourbés. Son nez était celui d'une statue grecque échappée aux ciseaux de Phidias ou de Praxitèle. Pour décrire ses lèvres et ses dents, il fallait recourir à la banale comparaison du corail et des perles. La Parabère avait la taille mince et souple comme celle d'un enfant, les épaules et les hanches très développées, la jambe de Diane Chasseresse, la gorge de la Vénus de Milo. À cause du ton bistré de son teint, le régent l'appelait son petit corbeau. La Parabère manquait d'esprit, mais son Altesse royale s'en accommodait fort bien. « J'aime peu, disait-il, ces grandes langues de femmes qui parlent comme on écrit. Parabère me plaît dans son silence, parce qu'elle n'a rien à dire et qu'elle ne cherche point à dire des riens. D'ailleurs, sa bouche n'a pas besoin de parler pour être séduisante. » La Parabère fut extrêmement utile au cardinal Dubois pour débarrasser le régent d'une vieille maîtresse à laquelle il tenait par les liens assez relâchés d'une vague habitude et qui était devenue Pan et Pégrièche. Elle lisait des romans jour et nuit et voulait les mettre en action dans le genre de ceux de Madame d'Urfé. Elle prenait fort au sérieux les bergers de l'Astrée. Elle se couchait pendant des journées entières sur un sofa peint en gazon dans une chambre dont les tapisseries figuraient des arbres, des paysages, des bergeries. Quand arrivait le régent, elle se levait, coiffée d'un chapeau de paille, avec des fleurs et des rubans roses, et tenant à la main houlette et panetière. En cet équipage, elle lui récitait doucement et langoureusement des vers empruntés aux églogues de Fontenelle. Elle parlait de tendres flammes et de sensibles cœurs, et renouvelait toute la fade quinauderie des opéras en vogue. Son Altesse royale se dégoûta bien vite de ce régime de paroles galantes et de madrigaux rimés. Il n'entrait guère dans ses habitudes de se mettre aux pieds d'une femme et de recouler l'amour en tourtereau. Cependant, il ne se décidait point à rompre absolument, et comme Dubois était un ennemi déclaré de Mademoiselle de Séry, c'est alors que ce complaisant du prince imagina de mettre en avant Madame de Parabère. Le début de cette nouvelle liaison fut original. Dubois fit inviter à un souper du palais royal Parabère et sa femme et plaça cette dernière à côté du duc d'Orléans. La jeune femme était coquette et même un peu coquine. Elle trouvait bien autrement honorable d'être la maîtresse d'une Altesse royale que la femme d'un simple gentilhomme. Et pendant tout le repas, elle enivra le régent par ses regards les plus capiteux, sans préjudice bien entendu du vin de champagne qu'elle lui versait incessamment d'une main blanche et prometteuse. Bientôt les fumées de la table montèrent à la tête de tous les convives, hommes et femmes. Le régent, Madame de Parabère et Dubois étaient les seuls qui eussent conservé, du moins en partie, leur raison. Quant au mari, insouciant pour tout ce qui ne touchait point à l'ivrognerie et à la gourmandise, il était parfaitement ivre. Philippe d'Orléans jugea que le moment était favorable. Il fit signe à Dubois de s'approcher de lui et lui dit tout bas en lui indiquant l'ivrogne. « Fais porter Parabère dans un lit. »«
Lequel, monseigneur ?»«
Pardieu, dans celui que tu voudras. »«
Mais, monseigneur, ce pauvre homme porte bien son vin et me paraît de force à boire encore 5 ou 6 bouteilles sans rouler sous la table. »«
Sa santé m'est précieuse et je ne la veux point compromettre. Emmène-le et qu'on le couche. »
« Mais s'il refuse de se mettre au lit ?»«
Ceci te regarde. Allons, Faquin, j'ai parlé, qu'on se hâte. »
Dubois réfléchit pendant un instant, et comme il était homme d'imagination, il eut bien vite trouvé ce qu'il cherchait. Il alla s'asseoir à côté de Parabère et lui dit d'un ton dolent et d'une voix émue.
« Ah, mon Dieu, mon pauvre ami, comme vous voilà pâle et défait. Seriez-vous malade ?»«
Moi ?» balbutia Parabère tout effaré.
« Mais non, je ne crois pas. »«
Alors ?» poursuivit Dubois. « C'est donc moi qui ai la berlue, car je vous trouve une mine effrayante. »«
Ah, Parabère, mon ami, quel vilain visage vous avez !»«
Oui, oui !» dirent en chœur tous les convives, devinant vaguement ce qui se passait.
« Parabère a mauvais visage. Parabère se trouve mal. »«
Hélas ! Hélas ! Hélas ! » interrompit Madame de Parabère avec une douleur comique.
« Mon pauvre mari n'est pas bien. »
Parabère se trémoussait sur sa chaise et commençait à ressentir les atteintes d'une véritable épouvante. Dubois lui prit le bras et lui tâta le pouls.
« Ciel ! » s'écria-t-il ensuite. « Je trouve au moins 200 pulsations à la minute. »«
Ah ! » balbutia Parabère. « Je suis bien mal. »«
Vite, vite !» dit alors le régent. « Qu'on le transporte dans une chambre à coucher et qu'on ait pour lui les mêmes soins que pour moi-même. »«
Hâtez-vous ! Hâtez-vous !» ajouta Dubois en s'adressant au valet. « Le voilà qui s'évanouit !»
Parabère ne s'évanouissait pas le moins du monde, ce qui ne l'empêcha point de se laisser prendre par 4 valets qui, le soulevant 2 par les épaules et 2 par les jambes, l'emportèrent, suivi par Dubois, qui faisait l'empresser, et par Madame de Parabère, qui jouait merveilleusement l'inquiétude. Ce gros ivrogne ouvrait des yeux clairs comme des yeux de basilic, se laissait faire et ne disait mot. Dubois le fit déshabiller et mettre au lit, puis se tournant vers la Parabère, il lui dit
« Si ce cher ami pouvait dormir, dans 2 heures il serait hors d'affaire. »
Ces paroles n'étaient pas plus tôt prononcées que le mari crédule fermait les yeux et commençait à ronfler de la meilleure foi du monde. Quand il se réveilla, le lendemain matin, il trouva sa femme à ses côtés, dormant ou faisant semblant de dormir. Il la réveilla pour lui faire partager toute l'admiration que lui inspirait l'admirable hospitalité du Palais Royal. Cette hospitalité avait rapporté à Madame de Parabère un énorme diamant qui valait un peu plus de 3 000 louis.
Voyez comme le bien vient en dormant.
Ce diamant était un présent destiné à la duchesse d'Orléans, qui ne pardonna guère au petit corbeau de l'avoir détourné de sa destination légitime. Cependant, ce n'était pas assez d'avoir le diamant. Il fallait encore pouvoir le porter, et s'en faire honneur, et par conséquent inventer à sa possession une origine honnête qui la justifia aux yeux du mari. La Parabère ne perdit pas une minute. Ce même jour, et profitant d'un reste d'ivresse de son cher époux, elle le cajola, le caressa, et lui expliqua qu'un brocanteur juif, se trouvant gêné, lui faisait offre d'un diamant merveilleux pour une somme incroyablement faible, et que c'était là une occasion unique qu'il ne fallait point laisser perdre. Parabère, généreux comme un ivrogne qui finit de cuver son vin, mit sa bourse à sec pour contenter sa femme. Cette dernière n'eut pas plutôt la somme qu'elle étala son diamant au cercle du Palais Royal. Madame la duchesse d'Orléans eut un serrement de cœur en reconnaissant cette bague au doigt de la Parabère. « Voilà une admirable pierre !» lui dit-elle, croyant l'embarrasser fort. « D'où la tenez-vous »«
C'est mon mari qui me l'a donnée, madame !» répondit la Parabère d'une voix sèche et avec une révérence cérémonieusement ironique.
« Il vous fait des présents vraiment princiers ?» poursuivit la duchesse. En ce moment, le mari intervint.
« J'ai l'honneur, madame, dit-il, d'affirmer à votre Altesse que cela nous a coûté fort peu de choses. »
Un indéfinissable sourire, dans lequel le mépris se mêlait à une colère contenue, vint aux lèvres de la duchesse.
« Oh ! Répliqua-t-elle, je m'en doute bien. »
Parabère continua naïvement.
« 200 ou 300 louis ?»«
Tout au plus, répéta la duchesse.
« Oui, madame. »
« Mais il en vaut au moins 3 000 ?»
Parabère salua, puis se tournant vers sa femme, il lui dit « À part ma foi, madame, vous aviez grandement raison de me soutenir que nous avions fait un marché. »
La Parabère soutint le choc sans broncher et ne rougit pas. Les rieurs eurent beau jeu et les moins perspicaces devinèrent bien vite de quel prix Madame de Parabère avait payé sa bague. Cependant, pour si épais que soit le bandeau qui couvre les yeux d'un mari,
quand ce n'est point une honteuse cupidité ou une complaisance infâme qui retient ce bandeau, il finit toujours, un peu plus tôt ou un peu plus tard, par se détacher. M. de Parabère apprit le dernier ce que tout le monde savait avant lui. Mais enfin, il apprit. Il se fâcha et voulut faire du bruit. On le pria de se taire. Il n'obéit pas. On le menaça d'une lettre de cachet. Les cachots de la Bastille n'auraient apporté aucune consolation à ses douleurs conjugales. Il se résigna et se tut. Madame de Parabère, séparée de son mari, devint la reine des soupers du palais royal. Toutes les causes amènent des effets. C'est la loi de la nature. Or, le régent apprit un beau jour que Madame de Parabère allait se trouver dans une situation critique dont sa séparation conjugale proclamerait tout haut l'inopportunité. Conseil fut aussitôt tenu entre Philippe d'Orléans et Dubois. Dans ce conseil, il fut décidé que la scène du palais royal se renouvellerait, mais dans d'autres conditions et surtout dans un but différent. Un ami dévoué quelconque se chargerait d'avoir à souper M. de Parabère et de le griser abominablement. Les mœurs et les goûts du gentilhomme rendaient cette entreprise bien facile. Une fois gris, on coucherait Parabère. Une fois couché, il s'endormirait. Le lendemain matin, en se réveillant devant témoin, il trouverait sa femme dans ses bras. Il crierait, il tempêterait, mais qu'importe. L'axiome bien connu du droit romain, his pater est quem nuptiae demonstrant, serait plus puissant que sa colère. La mort inattendue de M. de Parabère, survenue très peu de jours après le conseil tenu entre Dubois et le régent, dispensa d'ailleurs de recourir à ce prétexte de paternité.